Bonsoir, comment allez-vous? Demain, 6 décembre, les habitants du nord et de l'est de la France, les Belges, les Hollandais, les Allemands et plein d'autres, fêteront la Saint-Nicolas, patron des enfants. Pour eux, ce n'est pas le Père Noël, mais Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux. D'ailleurs, ils ont un lien de parenté, je vous expliquerai ça un autre jour. Mais d'abord, qui était Saint-Nicolas? Il est né au 3e siècle sur une terre qui correspond à peu près à la Turquie actuelle et il serait mort un 6 décembre. Comme il était évêque de Myre, on le représente avec ses habits d'évêque somptueux et surtout un extraordinaire couvre-chef, une mitre en velours rouge et doré, mais montée sur un âne, ce qui prouve sa simplicité. Il était réputé pour sa gentillesse et ses miracles. Alors à propos de miracle, il était arrivé une histoire affreuse à trois petits-enfants qui s'étaient perdus la nuit tombée. Le plus grand des trois dit « Nous allons demander de l'aide à la maison qui est là ». Il frappe à la porte, raconte qu'ils sont perdus, gelés, affamés. Gentiment, l'homme qui leur a ouvert les invite à rentrer. Mais une fois à l'intérieur, il referme la porte sur eux, les égorge, l'un après l'autre, les coupe en morceaux et les met dans son saloir. C'était comme ça que l'on conservait la viande avant les congélateurs, on la salait. Évidemment, malgré les recherches, on ne retrouvait pas les enfants. Quelque temps plus tard, Saint-Nicolas vient taper à la porte de cet homme qui, voyant un évêque, lui fait plein de courbettes, l'invite à déjeuner et lui demande ce qui lui ferait plaisir. Saint-Nicolas répond « De la viande que tu as dans ton saloir ». À ce moment-là, l'homme panique, se croit découvert et avoue. Il montre les enfants morts en morceaux. Et Saint-Nicolas recolle tous les mouflés et les ressuscite.
Allô, je m'appelle Anouk, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi la colle colle. Merci, au revoir.
Liliane Léger, c'est difficile hein, ce qu'elle vous demande.
C'est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a commencé à comprendre comment ça marchait une colle. Alors si vous avez tous déjà essayé de coller quelque chose avec une colle, vous savez très très bien qu'une colle, au démarrage, c'est un peu pâteux ou un peu liquide. Et puis, on a deux morceaux. Souvent, qu'on a envie de coller l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va étaler un petit peu de cette pâte sur l'un des morceaux pour faire un film bien continu. Mais comme c'est pâteux, comme c'est très souple, ça va bien remplir toutes les petites bosses de la surface du premier objet. Et puis, on va amener en face le deuxième objet. Puis, en général, on appuie un petit peu.
Oui.
Et puis après, on attend. Et pendant qu'on attend, il se passe des choses. Et là, c'est pas si simple que ça de comprendre ce qui se passe. Mais je vais essayer de prendre une image pour que vous compreniez. Donc la colle, au démarrage, elle est plutôt liquide. Et puis quand on a fini d'attendre, eh bien elle est devenue très dure. Et ce qui s'est passé, c'est un petit peu la même chose qui se passe quand on prend de l'eau liquide et puis qu'on la met dans un bac à glaçons, dans un réfrigérateur, et puis qu'on refroidit, et à un moment, on a de la glace, et la glace est devenue solide. Alors c'est assez facile pour vous d'imaginer, puis peut-être vous l'avez déjà vu, que de l'eau entre des pierres, tant que c'est de l'eau, ça ne donne pas du tout de résistance. Ces pierres, on peut les séparer comme on veut. Mais si on refroidit, le petit film d'eau qui devient solide, qui devient glace, eh bien il va retenir ces deux pierres comme attachées l'une à l'autre. D'une certaine façon, ce qu'on cherche à faire quand on utilise une colle, c'est très analogue. On va partir d'un film liquide, on va le mettre entre deux solides et on va faire quelque chose, et maintenant je vais expliquer quelque chose, on va faire quelque chose pour que ça devienne suffisamment solide pour pouvoir donner de la résistance mécanique. On pourra tirer les deux morceaux et ils ne vont plus se séparer. Alors si on le faisait juste comme pour l'eau, en jouant sur la température et en passant de ce qu'on appelle l'état liquide, l'eau de tous les jours, à l'état solide, le glaçon dans le frigo, eh bien on voit bien que ça ne serait pas très intéressant puisque il suffirait de chauffer un tout petit peu pour que notre colle perde ses bonnes propriétés. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus astucieux et qui va consister à avoir préparé dans le liquide de la colle quelque chose, donc des molécules tout à fait spéciales qui, dans les conditions pendant qu'on attend, alors soit faut chauffer un petit peu, soit seulement le temps le fait tout seul, eh bien pendant qu'on attend, ces molécules vont être capables de réagir, de s'attacher très solidement les unes aux autres, et ce sont elles qui vont faire le travail de rendre la colle solide pour toujours.
Mais Liliane Léger, le temps joue, mais est-ce que l'air ne joue pas, parce que la colle dans le tube, elle y reste un bon moment.
Oui, alors ça dépend complètement des colles.
Ah oui.
Il y a des colles pour lesquelles il faut rajouter quelque chose,
oui,
ou mélanger deux produits pour que cette réaction chimique se fasse.
Alors pourquoi ? Ce sont des molécules différentes ?
Parce que, justement, on ne saurait pas empêcher que ça se produise tout seul dans le tube.
Je
donc
comprends.
On sépare les produits, ils ne peuvent pas réagir l'un avec l'autre. Et au moment où on va se servir de la colle, on les mélange. Dans d'autres cas, c'est juste l'humidité de l'air qui va faire le travail, parce qu'il y a toujours un petit peu de molécules d'eau qui se promènent
l'humidité.
Dans l'air, l'humidité, et elle va provoquer cette réaction chimique. C'est le cas, par exemple, des mastics, des joints qu'on met autour des lavabos ou des baignoires. C'est l'humidité de l'air qui fait le travail.
Ah, je savais pas.
Et puis, dans d'autres cas, c'est la lumière qui peut faire le travail, qui va donner juste aux molécules l'énergie qu'il faut pour fabriquer la réaction.
Marjorie me dit que le dentiste, pour faire coller une dent, envoie de la lumière bleue dans la bouche. En même temps, je ne sais pas comment elle le sait, je ne sais pas si je dois la croire. Liliane Léger, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'elle est physicienne, spécialiste notamment des mécanismes d'adhésion ou de friction. Elle est aujourd'hui professeure émérite. Vous écoutez Les Petits Bateaux. Et ce soir, Emma a demandé à Bernadette Bricout pourquoi dans les contes, les héros sont parfaits. Vous allez voir ce qu'elle a répondu, Bernadette, ils ne sont pas si parfaits. Françoise a demandé à Christian Grataloup comment on a dessiné la première carte de géographie et Romain a demandé au docteur Bruno Alioua pourquoi le pipi est jaune. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Je m'appelle Armel, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi on vote pour les présidents. Merci.
Pourquoi on vote pour les présidents à 5 ans, Bruno Daugeron ? Vous vous posiez cette question, vous, à 5 ans ?
Non, et je suis très admiratif de la personne qui la pose, parce que je ne me posais pas cette question.
Et pourtant, vous êtes devenu professeur de droit public à l'Université de Paris-Descartes. Pourquoi on vote pour les présidents ?
Alors, pour répondre précisément à la question, je modifierais un petit peu le terme. Je dirais pourquoi plutôt on élit les présidents de la République ? Alors, à dire vrai, pour deux choses qui sont complémentaires. D'abord, tout simplement pour désigner un homme qui va être le chef de l'État. C'est ça la fonction d'élection présidentielle. Et que fait le chef de l'État ? Eh bien, en principe, d'après notre Constitution, il est censé être un arbitre, un gardien et un garant. L'arbitre du fonctionnement des pouvoirs publics, le garant de l'indépendance nationale, du bon fonctionnement des institutions plus généralement. C'est pour ça qu'on a besoin d'élire un président de la République, parce que notre Constitution l'impose. Mais en réalité, progressivement, il y a une deuxième fonction qui nécessite l'élection d'un président de la République. C'est que depuis que ce président est élu au suffrage universel, sur un programme de gouvernement, eh bien les électeurs ont le sentiment d'élire bien plus qu'un arbitre. Ils savent bien qu'en l'élisant, ils vont élire un gouvernant qui va, en principe, appliquer ou parfois renoncer à mettre en œuvre son programme. Ce qui fait que, progressivement, les électeurs sont amenés à désigner un président de la République tout simplement pour qu'il gouverne et se prononcer sur cette fonction en fonction de ses orientations politiques.
Bruno Daugeron, le fait qu'il soit élu le force à séduire, donc il fait de la com.
Ah, il fait forcément beaucoup de communication de toute manière pour être président de la République et candidat, il faut être un petit peu séducteur parce qu'il faut bien solliciter les suffrages des électeurs et on ne peut pas les solliciter, en principe en tout cas, en les prenant à rebrousse-poil. Donc effectivement, il faut être capable au moins de défendre son programme mais de défendre sa personne et prouver sa capacité à pouvoir mettre en œuvre ce qu'il a promis.
Parce que le bon séducteur n'est pas forcément le bon gouverneur.
Effectivement, des présidents très populaires ou très bien élus se révèlent de mauvais gouvernants. Et c'est peut-être un des travers d'ailleurs de l'élection présidentielle au suffrage universel et du métier d'homme politique qui fait qu'on est parfois très aguerri à la compétition électorale, à la séduction des électeurs, à la capacité de défendre un programme et finalement, une fois arrivé au pouvoir, se révéler dans l'incapacité, en tout cas dans une moindre capacité de gouverner. Puisque séduire, en tout état de cause, est sans doute beaucoup plus facile que de gouverner.
Merci Bruno Daugeron, professeur de droit public à l'Université Paris-Descartes et co-directeur d'un blog Ius Politicum dont vous trouverez les références sur le site des Petits Bateaux.
Vous n'avez pas vu Mirza ? La 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 la. Vous n'avez pas vu Mirza, oh la 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 la. Vous n'avez pas vu Mirza, oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou.
fait donc passer ce chien. Oh, ça y est, je le vois, veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas, veux-tu venir ici? Sale bête, va, veux-tu venir ici? Donc passer ce chien, je le cherche partout. Où est donc passer ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passer ce chien? Oh, ça y est, je le vois, c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas, veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà, veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas, veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza.
Et voilà ce que nous écoutions en 1966, Nino Ferrer, Mirza. C'était un temps où les chiens n'avaient pas de puce, pas la puce qui gratte, la puce électronique pour le localiser.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le docteur Bruno Alioua a écrit, entre autres, Histoire de la médecine pour les nuls.
Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 10 ans et j'aimerais bien savoir pourquoi le pipi il est jaune. Merci, au revoir.
Alors, avant tout, Romain, il faut que tu comprennes que tu as deux organes qui s'appellent les reins. Et les reins, en fait, ont une fonction, c'est que ça épure le sang. Tu sais que le sang peut avoir un certain nombre d'impuretés. Alors, c'est deux machines qui épurent le sang continuellement. Et continuellement, à travers les reins, passent 180 litres de sang. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas 180 litres dans l'organisme, mais le sang passe et puis il est filtré à travers les reins. Et en fait, tout ce qui est impur, tout ce qui est vraiment pas très beau, pas très bien pour l'organisme, est rejeté par les urines. Ça correspond à 1% des 180 litres. Ça veut dire qu'on fait pipi en moyenne 1,5 litres par jour, 1,8 litres par jour. Et ce qui va se passer, c'est que dans les urines, c'est quoi? Les urines, tu as de l'eau et tu as en fait des produits de dégradation du sang, en particulier de l'hémoglobine, avec un produit qui s'appelle l'urochrome. Et l'urochrome a une teinte jaune. C'est ce qui donne cette couleur jaune du pipi. Alors, il faut savoir que dans l'urine, tu as également des dérivés azotés. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais pipi, ça sent pas mauvais au début, mais au bout de très rapidement, en quelques secondes, tu as des bactéries qui vont décomposer l'urine en ammoniac et c'est ce qui va donner cette mauvaise odeur que tu peux sentir parfois quand tu passes sous un pont, sous les ponts de Paris. Parfois, tu as des gens qui font pipi, ça donne cette mauvaise odeur. Alors, rappelle-toi que cette couleur jaune, elle n'est pas constante. Si jamais tu ne bois pas beaucoup, l'urine sera plus orangée. Si jamais tu manges des betteraves, beaucoup, beaucoup de betteraves, bah dans ces cas-là, tu auras des urines rouges pendant 2 ou 3 mixions. Et puis, il faut savoir que, y a des petites choses amusantes, c'est que dans certaines maladies, l'urine peut être très très sombre, avoir une couleur très noire. Et puis, il n'y a pas que la couleur, il y a l'odeur. Et parfois, on peut avoir une odeur de l'urine, une sorte d'odeur un peu sucrée. Alors, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle des gens qui ont le diabète, ont une urine sucrée. Et alors, tu sais, il y a des images comme ça, si tu vas dans les musées, en particulier au musée du Louvre. Sache que à l'époque, les médecins, pour voir si une personne était diabétique, devine comment ils faisaient. Ils n'avaient pas de prise de sang.
Ils goûtaient.
On avait les goûteurs d'urine. Alors, on goûtait de l'urine, on disait cette urine est un peu sucrée, la personne a du diabète. Et d'ailleurs, dans Molière, on a quelques scènes mémorables. Donc aujourd'hui, aucun médecin ne s'amuse à goûter l'urine. Mais quand même, j'avoue qu'on est très attentif à la description des urines. D'ailleurs, quand une femme a une infection urinaire, elle le dit, j'ai des urines troubles.
Voilà, merci docteur Bruno Alioua, je le répète, auteur de l'histoire de la médecine pour les nuls. Dieu merci, on ne goûte plus l'urine, enfin je pense pas, la médecine a évolué. Et à propos de médecine qui évolue, ce week-end vous avez bien entendu, je l'espère, participé au Téléthon. Le Téléthon est ce soir terminé, mais le 36-37 fonctionne toujours. Donc si vous n'avez pas pu faire de don, eh bien il est encore temps donc de donner de l'argent pour la recherche médicale, pour le Téléthon. Oh, je le répète, 36-37.
Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 50 ans et je voudrais savoir comment on s'y est pris pour dessiner la première carte de géographie. Merci.
Françoise, oh, 50 ans, c'est rien. Alors, on prend votre question, Françoise, parce qu'elle est bien intéressante. Christian Grataloup, professeur à l'Université de Paris-Diderot ou encore à Sciences Po et écrivain aussi de plusieurs livres, mais peut-être que celui qui vous concerne, Françoise, c'est L'invention des continents, édité chez Larousse. Comment on s'y est pris pour dessiner la première carte de géographie ?
Bonsoir Françoise, c'est vrai, vous êtes une gamine, en tout cas pour moi. Donc c'est une excellente question, mais qu'il est très difficile d'y répondre parce que les cartes ne sont d'abord pas forcément dessinées. Quand quelqu'un vous demande son chemin et que vous lui indiquez, au fond vous faites une carte, vous dites vous tournez à gauche, à droite, et etc. Oui. Et la plupart des populations et nos ancêtres chasseurs-cueilleurs le faisaient certainement car ils connaissaient très bien leur territoire, c'était se guider à des repères et avoir une idée de l'espace dans lequel on est. Et être parfois capable d'en faire sans doute un tracé fugitif. J'ai vu ainsi des Touaregs dessiner dans le sable tout un itinéraire, une vraie carte de fait, mais qui était fugitive et qui a disparu. Comme parfois on le fait aussi nous-mêmes avec un bout de crayon et un papier. Donc les cartes, il y en a, je dirais, toujours eu. Car on s'est toujours déplacé, on a toujours eu des repères. Alors, on pense peut-être que quelques gravures sur des roches du paléolithique, de la préhistoire, étaient des cartes. Ce qu'on considère souvent comme la première carte, en tout cas en Europe, c'est ce qu'on appelle le cadastre de Bedolina. Alors Bedolina, c'est au pied des Abruzzes, hein, c'est dans le nord de l'Italie, une petite vallée où il y a des gravures, comme dans la vallée des Merveilles, c'est les mêmes populations. Et ces gravures, il y en a une qui représente incontestablement l'occupation d'une petite vallée qui est juste en dessous du rocher sur lequel elle est gravée. On voit les champs, les maisons. Et des archéologues ont retrouvé d'ailleurs des traces de ces champs et de ces maisons d'il y a environ 3000 à 4000 ans. C'est un objet formidable. Alors remarquez qu'on a aussi des papyrus égyptiens ou des tablettes mésopotamiennes qui nous tracent des champs et des levées, des digues, des routes. Parce que chaque fois qu'il y avait une crue, il fallait bien retracer les champs après.
Ah oui.
Si l'Égypte était un don du Nil, il fallait quand même que ce don soit fructifié avec qui était propriétaire du champ, qui le travaillait, etc. Donc on avait des cadastres, hein, ce qu'on appellerait un cadastre aujourd'hui. Et c'était vrai pour nos populations néolithiques du nord de l'Italie également. Donc là, on a des cartes locales à très grande échelle, comme disent les cartographes, c'est-à-dire qui représentent des toutes petites surfaces où la fraction est grande. Et inversement, il y a d'autres cartes qui sont tout aussi anciennes et qu'on peut aussi appeler des premières cartes, qui sont des cosmogonies, qui sont des visions du monde. Toutes les sociétés ont une vision du monde, une représentation, comme elles ont une vision de la création de ce monde. Donc les Aztèques, les précolombiens avaient des cartes, les Polynésiens avaient des cartes, qui étaient des représentations plus ou moins exprimées par un dessin. Par exemple, des représentations du monde qu'on peut qualifier de cartes, ce sont les mandalas. Ces cartes du monde bouddhiste qui représentent toute une organisation du monde centrée sur le lieu de Bouddha. Et nous avons aussi dans notre tradition des représentations qui sont au fond celles qu'a repris sans avoir de dessin, car il n'y avait pas de carte dans ce texte, la Bible. Donc la Bible s'inscrit dans la tradition mésopotamienne et il y a au British Museum une tablette babylonienne du 7e siècle avant notre ère qui reprend des récits et des dessins beaucoup plus anciens, mais dont on a trace, qui dessine précisément une map monde avec un océan, avec les terres au milieu, avec tout au milieu du milieu la Mésopotamie qui est tracée et Babylone qui est écrite en plein milieu de la carte. Mais vous avez là une vision générale du monde dont on a d'ailleurs notre pensée occidentale, dont nous sommes tout à fait les descendants. Donc à la fois des cartes très locales, des cadastres, qui étaient aussi des territoires de chasse éventuellement, et puis des visions du monde. Et nos planisphères au XVIe siècle, c'est lorsque ces deux techniques se rejoignent.
Donc ce livre de Christian Grataloup, L'invention des continents et des océans chez Larousse, montre l'évolution de la représentation de la Terre à travers les cartes. Et ces cartes racontent l'histoire des continents et montrent également, c'est ça qui est passionnant, que le découpage des parties du monde est un fait de culture. Et puis si vous aimez les cartes, bien entendu, sur Arte à 19h30 le samedi, l'émission d'Émilie Aubry qui est tout à fait passionnante.
Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight.
Billy Bossa Nova, choisi par Jean-Baptiste Audibert, mais qui a fait l'unanimité au bureau des petits bateaux. Parfois, on se dispute un peu. On dit, oh non, ça sert à se voir, mais comment tu peux dire ça? C'est magnifique. Et bien là, tout le monde était d'accord.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 13 ans, et je voudrais savoir pourquoi dans les films, les héros, les héroïnes sont toujours parfaits, ont un talent, et ne se prennent jamais de râteau. Merci.
Bernadette Bricout, vous voyez bien ce qu'elle veut dire.
Oui, 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 je vois très bien. Je suis pas sûre de savoir à quel type de film pense Emma lorsqu'elle dit que dans les films, les héros et les héroïnes sont toujours parfaits. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, pour les films qui s'inspirent du conte, et qui vont reprendre, par exemple, pour nous en proposer de très belles versions des contes merveilleux, ou qui sont bâtis comme des contes, les héros ou les héroïnes sont au contraire des gens qui, à l'origine, cumulent toutes sortes de handicaps. Souvent, ils sont pauvres, ils sont méprisés, ils sont parfois laids. Pensez que Riquet à la Houppe, quand il naît, c'est vraiment un gnome, il est couvert de verrues, il a des cheveux qu'on peut pas coiffer, enfin, c'est vraiment un repoussoir. Ils sont, je l'ai dit, pauvres. Quand il y a trois frères, c'est souvent le cadet des trois frères qui va être le héros alors que nous sommes dans des sociétés qui privilégient le droit d'aînesse. Et puis même quand le héros ou l'héroïne est beau ou belle intérieurement, on s'aperçoit que souvent cette beauté n'est pas visible. Cendrillon, quand elle est dans ses cendres, elle est repoussante. On croit qu'elle a des poux dans ses cheveux. La peau d'âne, sous sa peau d'âne, elle va être, elle aussi, jusqu'à ce qu'elle l'enlève, une sorte de repoussoir pour les êtres de la société normale. Et donc, la peau d'âne, tant qu'elle n'a pas ôté sa peau d'âne, est quelqu'un dont on s'éloigne. C'est quelqu'un qu'on va rejeter et qui est une sorte de repoussoir, même pour un prince, tant qu'il ne l'a pas vu coiffer ses cheveux devant son miroir et tant qu'il n'a pas vu qu'elle a des cheveux d'or. Donc, le héros est quelqu'un qui est handicapé et parfois même lourdement handicapé. Et ce que le conte nous explique, c'est qu'avec l'aide des donateurs qu'il va rencontrer sur sa route, les donateurs ce sont des personnages surnaturels qui le mettent à l'épreuve et qui lui donnent un talent, qui lui donnent un don, qui lui donnent un pouvoir magique, ce héros arrivera à triompher de plus puissant que lui. Le petit Pousset, méprisé dans sa propre famille, et c'est vraiment un être minuscule, un être qu'à la limite on ne voit pas, eh bien le petit Pousset triomphera de l'ogre grâce aux ressources de son esprit subtil. Donc moi je dirais qu'au contraire, en tout cas pour les films qui s'inspirent des contes merveilleux et de la tradition orale, les héros et les héroïnes sont souvent des héros qui cumulent les handicaps, ils vont recevoir des dons, ils prennent très souvent des râteaux. Rien ne dit que Cendrillon, avant d'aller au bal, avant de revêtir sa robe de lune ou sa robe de soleil ou sa robe couleur du temps, elle peut séduire le prince. Donc moi je crois qu'ils se prennent des râteaux, mais le conte nous dit, quelle que soit la situation où tu es, quelle que soit la difficulté où tu te trouves dans ta vie, dans ta famille, à l'école, et on sait que même dans l'enfance, et d'ailleurs tout au long de notre vie, il y a des situations très difficiles, eh bien le conte nous dit néanmoins, toi aussi, tu peux croire en ton étoile, et toi aussi, si tu suis ton chemin, tu feras ta place au soleil. Au fond, c'est une leçon d'espoir, le conte.
Notre Bernadette Bricout-Chérie de France Inter a enseigné la littérature orale à l'université Paris-Diderot. Elle se consacre ces jours-ci à un cycle de conférences dans les murs de Sciences Po Paris. Sujet, horaire, jour, thème des conférences, vous pourrez les trouver bien entendu sur le site des Petits Bateaux. Et oui, les contes nous apprennent, comme vient de nous le signaler Bernadette Bricout, que c'est le moins bien noté, le moins bien habillé, le moins populaire qui va réussir. N'empêche que nous aimerions que nos enfants aient un boulevard devant eux et non pas un chemin semé d'embûches. Voici venue l'époque des conseils de classe, la rencontre entre parents et enseignants pour faire un point sur l'élève. Cette réunion peut être pénible malgré les bonnes volontés des uns et des autres tant il y a d'incompréhension de part et d'autre. Colette Portelance a œuvré toute sa vie dans le domaine de l'éducation et de l'aide. Elle nous dit que l'échec scolaire a principalement pour cause le manque de reconnaissance de certains types d'intelligence. Elle a écrit aux éditions québécoises du CRAM « Au cœur de l'intelligence ». Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide, disait Albert Einstein. Colette Portelance nous dit que notre société survalorise un seul type d'intelligence au détriment des deux autres. L'autrice cite le chercheur Stéphane Drouet qui évoque trois cerveaux, celui du ventre, celui de la tête et celui du cœur. Celui du ventre envoie 9 fois plus d'informations au cerveau de la tête qu'il n'en reçoit. Ce qui veut dire que nous vivons sous l'influence de nos émotions, que nous le voulions ou non. Colette Portelance dit quelque chose d'assez subtil à propos de la souffrance qui se cache derrière l'émotion. Elle parle de l'entendre, de la reconnaître, de s'en servir pour créer, pour comprendre, mais pas pour se victimiser. La victimisation enlève le pouvoir sur la vie, je la cite, plus qu'elle ne provoque de l'amour. La victimisation provoque de la pitié. La pitié, c'est pas tout à fait l'amour. La bonne nouvelle, enfin, c'est que nous savons maintenant, grâce aux neurosciences, que nous pouvons acquérir de nouvelles habiletés, de nouvelles connaissances. C'est l'expérience qui modifie les circuits neuronaux. Et ce, à tout âge, oui madame, au cœur de l'intelligence, aux éditions du CRAM, Colette Portelance. Podcastez, mes amis, ces petits bateaux, ou bien réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Si, par exemple, le livre de Colette Portelance, si vous voulez réécouter les quelques citations, ben vous pouvez le faire tout simplement par franceinter.fr. Donc, toute l'émission, juste des petits bouts. Ces petits bateaux ont été réalisés par Marjorie Devoucoux, mixés par Juliette Delperroux, animés par Noël Bréham. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine à 19h30. À suivre, Jérôme Garcin avec Un masque et la plume, consacré ce soir au cinéma.